une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir, nous investissons en vous.
Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 216e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Marc Lécuyer, gestionnaire de portefeuille à Côte-Sans. Monsieur Lécuyer, bonjour.
Bonjour.
Nvidia, qui est devenue cette semaine la première capitalisation boursière aux États-Unis. On parle d'une progression du titre d'environ 180% depuis le début de l'année, ce qui veut dire que le titre a presque triplé de valeur. Est-ce que le titre est encore abordable, selon vous, au niveau actuel?
C'est certain que la commande est importante pour Nvidia au niveau d'évaluation actuelle. Bon, on comprend l'engouement pour l'intelligence artificielle. Puis, je veux dire, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé à la fin des années 90 avec l'arrivée de l'Internet. Il n'y a pas de doute que l'intelligence artificielle va révolutionner nos façons de vivre, mais est-ce que la société va continuer d'être aussi dominante comme elle l'est actuellement? Ça, c'est un peu plus incertain, là. Donc, c'est difficile de définir clairement qui seront les gagnants dans l'intelligence artificielle, même si à court terme, on peut très bien comprendre que le grand gagnant, c'est Nvidia.
Et avec Apple et Microsoft, Nvidia, là, on a trois titres qui comptent pour plus de 20% de l'indice américain Standard & Poor's 500, l'indice phare de la bourse américaine. Avec une concentration là, aussi forte dans l'indice, est-ce que c'est possible de battre justement le rendement du Standard & Poor's de 500 en ignorant ces trois entreprises-là?
À court terme, depuis le début de l'année, c'est pratiquement impossible, si on a un portefeuille diversifié, d'avoir battu l'indice. On pourrait même dire Nvidia, parce que c'est surtout cette société-là qui a bien fait depuis le début de l'année. Je veux dire, Apple et Microsoft étaient déjà des sociétés dominantes en début d'année. Donc, très difficile, disons, de battre l'indice seulement si on n'est pas dans Nvidia. Cette réflexion-là est vraie aussi sur le plus long terme. Hein? Je veux dire, si on remonte, depuis 10 ans, c'est excessivement difficile de battre l'indice si on n'est pas dans les entreprises dominantes. Bon, on a nommé Nvidia, Microsoft, Apple, mais on pourrait ajouter Alphabet, Meta, Amazon. Ces entreprises-là, je pense que si on inclut les 6, on est au-dessus de 30% de l'indice S&P 500. Donc, c'est pas facile de faire mieux que les indices sans être dans ces sociétés-là.
Vous tenez des titres d'Apple par le biais de votre participation dans Berkshire Hathaway. Est-ce que, selon vous, là, c'est une bonne manière indirecte de jouer les grosses entreprises du secteur?
C'est-à-dire qu'on aurait aimé mieux détenir Apple directement, c'est certain, dans les dernières années. On est bien content d'en avoir une participation importante grâce à notre position dans Berkshire Hathaway. Mais je pense que la meilleure façon, ça demeure, c'est d'investir directement dans ces sociétés-là. Là.
Et avec la forte concentration de l'indice américain, là, on a parlé des 7 magnifiques, mais la concentration en même temps de la bourse américaine n'est pas un cas à part si on regarde par exemple du côté canadien, dont l'indice Standard & Poor's TSX est très concentré dans les banques, les titres du secteur de l'énergie et les ressources naturelles.
Tout à fait, tout à fait. Ce qui est particulier en ce moment de la concentration dans l'indice S&P 500, c'est par rapport à la concentration historique. Donc, on est à un niveau plus élevé. Mais quand on regarde au niveau international, je viens de mentionner le Canada, généralement, les indices internationaux sont moins bien diversifiés. Et le Canada est un exemple parfait. Un indice, disons, de financiers et de ressources naturelles. Puis, on a vu le même impact aussi. On a vu énormément d'entreprises au Canada, par exemple, devenir les plus importantes, donc avec des concentrations des fois de 20. On pense à Nortel, qui était monté, je pense, au début des années 2000, à 30% de l'indice. Donc, une seule société qui représentait 30% de l'indice. Fait que, on l'a vu aussi, plein d'entreprises comme Research in Motion, Potash, Shopify, qui sont devenues des sociétés qui ont représenté une concentration importante dans l'indice. Par contre, on a vu que ces concentrations-là n'ont pas duré. C'est toujours aujourd'hui la Banque Royale qui est la société la plus importante au Canada dans l'indice. Mais oui, c'est certain, il faut regarder de façon sérieuse la composition des indices avant d'investir, là, surtout à l'international.
Et quelle est la solution dans ce cas-ci? Parce que, évidemment, si on mise sur les États-Unis, on est très concentré dans les technologies. Si on mise sur le Canada, on est très concentré dans les financières, l'énergie, les ressources naturelles. À ce moment-là, c'est quoi la solution pour les investisseurs là, qui veulent une exposition, là, vraiment un portefeuille équilibré?
Si on veut éviter ces risques-là, bien, c'est de faire de la sélection de titres, donc de pas acheter des indices et d'acheter directement des sociétés et à ce moment-là, de se bâtir un portefeuille mieux diversifié. Ceci étant dit, L'indice S&P 500 demeure bien diversifié, là. L'augmentation de la concentration, oui, c'est vrai par rapport à ce que c'était il y a quelques années, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui est dramatique. Surtout que les titres qui sont dominants, ce sont des belles sociétés, des modèles d'affaires qui sont intéressants, je pense, à long terme, qui vont continuer de générer de la croissance. Donc, moi, je ne serais pas inquiet d'investir dans le S&P 500 actuellement, malgré, disons, la forte proportion de certains titres, là, comme Nvidia, Apple ou Microsoft.
Et pour ceux qui veulent un portefeuille plus international, est-ce que la diversification géographique, en jouant peut-être des fonds indiciels, peut aussi être une solution à long terme?
Oui, tout à fait. On peut aller, si on veut, de l'exposition, justement, par exemple, si on veut une exposition aux ressources naturelles, le Canada est un bon choix. Fait que oui, on peut aller à l'international, là, si on veut une exposition à certaines industries spécifiquement, mais... Maintenant, demeure que le S&P 500 est quand même un indice bien diversifié, tant au niveau sectoriel qu'au niveau géographique. Une grande partie des revenus des entreprises du S&P 500 proviennent de l'international.
Si je vous comprends bien, le Standard & Poor's 500 pourrait s'avérer une solution, un peu un tout inclus pour les investisseurs, malgré sa forte concentration dans les titres technologiques.
Je pense que oui, c'est une bonne solution.
Merci beaucoup, M. Lécuyer.
Au plaisir.